Bonjour, bienvenue dans InfoCampus, le magazine des acteurs associatifs, économiques et culturels universitaires de la Guyane. Alors, bonjour Marc, bonjour Sloan.
Bonjour Nidza.
Bonjour.
Nous avons bien un sujet assez intéressant. Avant tout, pour commencer, en quoi nous, en tant qu'être humain, on devrait s'intéresser à la vie secrète des GAFA, Marc?
Eh bien, c'est effectivement une très bonne question. Pourquoi on devrait s'y intéresser? Justement parce que, en fait, on est sur Terre à peu près 6 milliards et demi, et que sur ces 6 milliards et demi d'humains, il y en a entre 2,5 et 3 milliards tous les jours qui sont soit sur Facebook, soit sur Amazon, soit sur Google, soit sur Apple. Donc c'est effectivement quelque chose de très massif. Et effectivement, en tant qu'humain, on est immédiatement concerné dans notre quotidien lui-même.
D'accord. Et est-ce que vous pouvez fixer pour nous ces quelques secrets, même si ce n'est pas globalement, puisqu'il y aura une conférence?
Alors, je ne sais pas, enfin, si c'est effectivement intéressant. La vie secrète des GAFA, c'est pour, je pense que c'est juste de clarifier ce qu'ils font, de façon un peu plus explicite que la communication que sait faire Facebook, que sait faire Google et qui est en général excellente. Donc moi, ce que je veux dire, c'est que derrière une communication qui est pertinente, qui est brillante, etc., hein, et ben, il y a des entreprises qui sont là pour gagner de l'argent, qui sont là pour améliorer leur performance financière, et donc elles utilisent des stratagèmes, des stratégies qui sont très classiques, mais qu'il convient de décrypter, qu'il convient d'analyser, parce que souvent elles sont noyées dans du verbiage, dans du vocabulaire, dans une communication qui fait oublier que le but du jeu, c'est quand même de collecter des données pour les revendre.
D'accord, et Sloan?
Oui, sur ce point, j'avais justement une question, parce qu'on sait vraiment que ces entreprises engorgent des milliards de dollars par an. Sur le plan fiscal, il y a eu un problème.
Alors, effectivement, il y a un énorme problème. C'est que là, on parle d'entreprises dont la capitalisation boursière est aux alentours de 1 000 milliards de dollars. Hein, je dis bien 1 000 milliards de dollars. Apple a dépassé les 1 200, 1 300 milliards de dollars. Et l'entreprise qui, sur le papier, vaut le plus cher du monde. OK. Donc, ce sont des entreprises qui sont richissimes virtuellement. Alors, la capitalisation boursière, c'est ce qu'elles valent, si vous voulez l'acheter. Sauf que quand on regarde leur stratégie d'évitement fiscal, ou leur stratégie d'optimisation fiscale, hein, pour être poli, elle est brillante. Et le résultat, c'est qu'elles payent très peu d'impôts là où les activités ont réellement lieu, et elles se débrouillent pour avoir des revenus là où les impôts, notamment l'impôt sur les sociétés, est le plus faible. Donc oui, il y a une optimisation fiscale qui fait penser à une stratégie d'évitement pour ne pas payer autant d'impôts qu'elles devraient payer au regard de l'énormité de leur activité.
Justement, je me souviens qu'il y a eu un scandale là-dessus quand soit le complexe numérico-industriel où on avait appelé les États-Unis, parce que ce sont des entreprises des États-Unis.
Exactement.
Sur ce point, et il y a eu, je crois, en 2019, une sorte de taxe fixée par les autorités françaises appelée taxe GAFA. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus?
Alors, ça tombe bien, c'est effectivement une excellente question. Ça tombe bien et ça tombe mal. Puisque
ah bon?
Puisque la taxe GAFA vient d'être mise en pause. hier par notamment les autorités françaises et Bruno Le Maire, et plus largement les autorités européennes et américaines. Oui, oui, il y a eu une volonté de taxer un peu plus et un peu mieux les GAFA, mais après des négociations plus ou moins fines, plus ou moins ouvertes, les autorités ont décidé de mettre en pause ce projet de taxe GAFA parce que c'était difficile à mettre en œuvre, parce que les répercussions, parce que les sanctions, notamment américaines, auraient peut-être été terribles, etc., etc. Donc oui, vous posez une excellente question. La taxation des GAFA est un projet. Je pense qu'il n'est pas totalement abandonné, mais pour le moment, il est mis en pause parce que il pose beaucoup plus de problèmes qu'il n'en résout.
Ok, en fait, je reste encore sur les histoires de taxes, de qui profite de ces entreprises réellement, mais c'est surtout une question de parler de ces puissances, entre guillemets, parce que c'est eux qui font un débat. Mais qu'en est-il des autres pays qui utilisent aussi bien ces entreprises que l'Europe?
Eh bien, quand on est une entreprise qui a une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars, on est un État. On a la force de frappe d'un État, d'une nation. En gros, c'est le budget de la France, hein, on est d'accord. Donc, soit vous parlez d'égal à égal avec des énormes structures institutionnelles comme l'Europe ou comme les États-Unis, et là, vous êtes quasiment égal à égal. Mais quand il s'agit d'un petit pays, et je ne veux pas citer de nom, vous n'avez aucun pouvoir de négociation face à Facebook ou à Google, qui fait 10 fois, 100 fois votre budget national.
Et maintenant, quel est le problème?
Alors, justement, le problème, c'est que ces entreprises sont devenues des États, hein, ont des forces de frappe financières, technologiques, qui sont au niveau des États, et que leur stratégie continue à être une entreprise privée, continue d'être une stratégie marchande. Et Amazon n'est pas là pour être gentil, n'est pas là pour faire du bien à la planète. Il est là pour gagner de l'argent, et c'est normal. C'est sa structure même.
J'ai une autre question. Est-ce que nous devons nous inquiéter de ces entreprises?
Alors, nous devons nous inquiéter de ces entreprises, puisque le pouvoir de ces entreprises qui sont américaines, qui sont jeunes, est un pouvoir massif. Voilà. Là, quand on parle de 2,3 milliards d'utilisateurs quotidiens, l'énormité des données collectées fait que effectivement l'individu est atomique au sens strict. Mm-hmm. Et oui, c'est inquiétant d'avoir des entreprises qui ont 100% de nos données, actuellement de la vie à la mort, quoi. Hein. Quand vous achetez sur Amazon, quand vous êtes sur Facebook, quand vous êtes sur Instagram, quand vous êtes sur WhatsApp, quand vous êtes sur YouTube, quand vous êtes sur Google, vous faites partie de cet écosystème fermé. Les données ne sont plus vos propriétés. Hein, ce sont des entreprises qui sont des réseaux qui mettent à disposition une plateforme, et c'est nous qui volontairement mettons des données en ligne. On n'est pas obligé, donc on n'a pas énormément de droits. On n'est pas des clients, on est des usagers. Donc face effectivement à ce jeu de dupes qui est de dire voilà, vous nous proposez un service là, Facebook qui est fantastique, qui est très pratique. Bah, la preuve, hein, cette radio. Hein, bien sûr que c'est un fantastique service Facebook, mais le jeu de dupes, il est que moi, usager, je ne sais pas, plus exactement, je ne veux pas voir que je n'ai aucun droit. Okay. Je ne suis pas un client, j'utilise gratuitement un service. Si je ne suis pas content, je vais ailleurs, point.
Ouais, j'ai une question comme vous venez de parler de la gratuité. Dans votre discours, vous parlez souvent de l'illusion de la gratuité d'Internet. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Nous, quand on utilise Facebook, on ne paye pas, on télécharge l'application. Et puis on va sur Google, on tape, on ne paie rien.
Si vous payez, parce que vous donnez des données, et c'est votre contribution, c'est la sincérité, la qualité des données personnelles, vos photos, vos vidéos, vos j'aime, j'aime pas, tout ça, c'est ce qui est. Cette contribution-là est une contribution que la plateforme va collecter, stocker, retraiter et revendre. Donc c'est ça l'illusion de la gratuité. Non, vous êtes un usager et en contrepartie de la gratuité de l'usage, vous cédez des données, du contenu dont vous n'avez plus la propriété.
Alors, mis à part YouTube, la plateforme YouTube que je sais qui paie à partir des clics, des vues, mais est-ce que les autres, par exemple Facebook, WhatsApp, ont un système payant, je peux dire, pour nous, les utilisateurs, est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec?
Alors, bien sûr, vous n'êtes plus un utilisateur, vous devenez un client. Vous êtes un client, un fournisseur.
Comment?
Eh bien, vous allez sur Facebook professionnel ou sur Google professionnel ou sur Amazon professionnel et puis vous achetez de l'espace. Vous achetez de l'espace pour stocker vos informations et vous achetez des données pour faire de la publicité. Donc, vous devenez à la fois un fournisseur de contenu et un acheteur de publicité. Quand vous regardez sur votre page Facebook tout le bandeau qu'il y a à droite, ce sont des publicités ciblées qui s'adressent à vous et pas à moi, parce que c'est sur votre page et ces publicités ciblées, c'est comme ça que Facebook se rémunère. Vous pouvez très bien envisager de dire, écoutez, moi je ne veux plus d'un usage gratuit de Facebook, je suis prêt à payer, je suis prêt à devenir client, mais s'il vous plaît, monsieur Facebook, enlevez-moi les publicités sur la droite. Ça, c'est ce sur quoi j'aimerais insister, puisque si effectivement nous arrivions à avoir un débat contractualisé, c'est-à-dire client à fournisseur, ce serait un tout petit peu moins illusoire que usager à fournisseur. Je suis prêt à payer 1 euro, 2 euros, 3 euros par an pour que Facebook me débarrasse de supplicer sur la droite, par exemple. Et pour le moment, Facebook ne veut pas rentrer dans cette logique-là.
Et pour revenir à la question d'avant, lorsque vous parlez que l'utilisation de Google, Facebook, tout ça, ça engendre beaucoup de données. Est-ce que cela n'a pas un impact sur l'environnement?
Eh bien, c'est une excellente question. C'est une excellente question. Bien sûr que si, l'impact sur l'environnement est terrible. On sait maintenant que le numérique, au sens large, hein, pas que Facebook, mais le numérique au sens large, c'est en gros un pays comme l'Australie. Hein, la consommation, c'est plus que le transport aérien. C'est plus que le transport aérien. La consommation énergétique du numérique actuellement, c'est en gros l'Australie sur un an. Et cette consommation-là, c'est quoi? C'est des data centers, donc là où on stocke les données. Ça, c'est à peu près la moitié du coût énergétique, parce qu'il faut les refroidir, il faut les alimenter en électricité, il faut les construire, il faut du sable, de l'eau, du verre, etc. Et ça, c'est la moitié. L'autre moitié, c'est nos postes personnels, votre téléphone, votre ordinateur, les webcams, etc. C'est les postes de travail, le poste de travail personnel. Et puis l'autre, donc le quart, et l'autre quart, c'est les réseaux. C'est les réseaux qui sont les satellites, les câbles sous-marins, les Wi-Fi, etc. Donc 50% pour le stockage, les data centers, les usines à données, 25% pour les réseaux et 25% pour les postes personnels.
D'accord. Et revenons maintenant sur la thématique de la conférence de ce soir qui est la vie secrète des GAFA. À quoi doivent s'attendre les étudiantes qui iront à cette conférence?
Alors, moi, ça fait une semaine que je suis ici. J'ai été invité par Koulani Rezer dans le cadre du partenariat qu'on a avec la lancée de ce Master 1 en MAE, là. Et je suis d'ailleurs ravi de la qualité des infrastructures, des étudiants et tout. Je passe une très, très bonne semaine. Et donc, si vous voulez, ce vendredi soir, là, je vais parler non pas des méchants GAFA et des gentils usagers, c'est pas vrai, ça c'est illusoire. Je vais parler, le secret c'est de faire croire que tout est gratuit, tout est immédiat, tout est pertinent et qu'il n'y a pas de coût derrière. Il y a des coûts derrière et donc je vais essayer de montrer que le secret c'est l'illusion de la gratuité et que si on veut vraiment être responsable, nous usagers, il faut qu'on soit conscient des impacts, notamment énergétiques, notamment électriques, notamment en termes de données personnelles, etc. Et si on arrive à prendre conscience des impacts dont on est responsable, hein, c'est nous qui envoyons des mails, c'est nous qui mettons la photo de notre grand-mère sur Facebook, c'est nous qui faisons une vidéo de petit chat qui danse et qu'on va mettre sur YouTube. C'est nous, personne ne nous oblige. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est on est des grandes personnes, on est responsables.
Mais...
Et cette responsabilité nous oblige à reprendre la main sur ce qu'on fait, sur nos comportements et sur nos données.
Mais avant de continuer, est-ce qu'il n'y a pas une contrainte? Et parce que vous venez de dire que personne ne nous oblige, mais avant qu'il y avait ces téléphones-là, on n'avait vraiment pas de besoin de les mettre. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, en quelque sorte, une sorte de contrainte douce ou bien une contrainte implicite?
Exactement. Vous avez totalement raison. On appelle ça les... moi, je suis dans une spécialité qui s'appelle le management des systèmes d'information et on appelle ça la théorie des technologies latentes. Oui, oui, il y a une contrainte implicite. C'est-à-dire que notre téléphone, il est là, il y a des applications dessus qui sont prêtes à être utilisées. Quand vous cliquez sur Internet, vous avez quasi gratuitement une page d'accueil qui s'appelle Google. Donc oui, effectivement, il y a des incitations, la facilité, la gratuité, l'immédiateté, l'accessibilité en quelques clics à toutes les informations du monde. Oui, bien sûr, ça, c'est incitatif. Mais c'est ça, justement, le piège. Il faut, dès qu'on prend notre téléphone pour regarder une vidéo d'un match de foot ou d'un petit chat qui danse, il faut qu'on ait conscience que c'est un acte qui impacte l'économie, qui impacte l'écologie. Et donc, est-ce que je le fais gratuitement en sachant que c'est un non-sens? Jamais, jamais dans l'histoire de l'humanité, une activité économique a été gratuite pendant 50 ans, ça n'existe pas. Donc je sais que vos enfants n'auront pas votre Internet, c'est pas vrai. Ils auront un Internet qui sera probablement un peu plus responsable et donc ils devront payer.
Plus dangereux encore. Mais et comment on va faire pour équilibrer ou du moins apporter une solution?
Eh bien, on va rentrer dans une contractualisation. Si je vous dis que, par exemple, vous avez, Facebook, c'est 1 euro par an. Voilà, 1 euro, d'accord? Mais 1 euro par an. Si vous voulez, par exemple, que votre photo soit stockée pendant 10 ans, eh ben ça passe à un abonnement à 2 euros. Si, par contre, vous restez à 1 euro, ben, votre photo est disparaît à la fin de l'année.
Comme les statuts et stories, ou genre à la fin de la journée.
Voilà, exactement. Et ça, si vous voulez, la tarification, les possibilités de tarification, on appelle ça les business models, sont énormes, énormes. Je sais que Google réfléchit, par exemple, à... OK, c'est gratuit, mais vous avez le droit à 1000 recherches par an, c'est tout. La 1001e, elle sera payante. Ou alors, si vous voulez l'illimiter, ça va être 10 euros par an. OK? Ou alors, on peut très bien acheter... à 5 euros par an, j'ai... par exemple, 10 000 mots-clés, etc., etc. Tout est possible. Mes vidéos sur YouTube, je peux très bien les stocker gratuitement pendant un an, et à la fin de cette année, YouTube m'enverra une petite facture de 1, 2 ou 3 euros, et je repars pour un an. Et mais si après, je paye pas, elle est détruite.
Mais après, on est conscient que c'est pas nous qui gagnons l'humanité, ce sont ces entreprises.
Mais non, bien sûr que non. Vous gagnez, vous avez un réseau. Vous avez un service. Si vous mettez votre photo sur Facebook, c'est qu'il y a un service. Ce service, il doit être payant. Il n'y a aucune raison qu'il sera gratuit. Et si ça ne vous intéresse pas, ben vous arrêtez, point.
D'accord.
Si vous n'aimez pas le pain du boulanger, vous n'allez pas le manger. Et ben, si la plateforme vous propose un service qui ne sera pas à la hauteur de ce que vous imaginez que vous payez, et ben vous allez ailleurs.
Ben, pour l'instant, ces structures ne sont pas encore en place. Maintenant qu'on sait que notre utilisation d'Internet, ça a un impact écologique, qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant?
Alors, déjà, ben, vous mettez pas déjà du Wi-Fi plutôt que de la 4G ou de la 5G, déjà. Après, vous ne regardez pas un film en streaming. Vous le regardez un film sur un CD ou vous le téléchargez préalablement. Ensuite, quand vous envoyez un mail, vous ne mettez pas 50 destinataires. Vous n'en mettez que un ou deux. Vous ne mettez pas de pièce jointe. Sur un mail, vous mettez un lien, etc., etc. Il y a des stratégies comme ça qui sont très simples, qui font que vous ne contribuez pas à utiliser de l'électricité, utiliser de l'énergie. D'accord? Si vous envoyez un mail avec juste le lien, ça coûte rien. Si vous envoyez un mail avec une pièce jointe en PDF, ça coûtera quelque chose. Ça coûtera l'ouverture, ça coûtera le déclenchement, ça coûtera l'énergie qu'il faudra pour le lire. Alors, voilà, après, tous ces comportements, on appelle ça les comportements responsables ou éco-responsables, tous ces comportements-là, on doit commencer à les intégrer. Pourquoi vous êtes géocalisable? Pourquoi on est géocalisable? Quel est l'intérêt? On sait qu'on est dans cette fantastique université de Guyane.
Au studio de Marie Campus.
Voilà, ouais, on est là, point. On déconnecte la géolocalisation. ça sert à rien d'avoir cette énergie-là qui va nous bouffer de la batterie et qui va nous servir à rien du tout. Et on va réenclencher la géolocalisation quand on en aura vraiment besoin. D'accord ? Donc tous ces comportements-là, qui sont des comportements juste de bon sens, hein, permettent de, déjà d'économiser les matériels, d'économiser leur batterie et de ne pas déclencher d'énergie, en gros électrique, pour des comportements qui sont inutiles. Regarder un film en streaming, c'est aussi cher, vraiment, hein, en termes d'électricité, que de le regarder sur un CD. Hein.
Ouais. Merci, ça fut un plaisir d'être avec vous, Monsieur Mark.
Vous merci aussi, Sloane.
Au revoir.
Au revoir.